Éternel Dieu de gloire, Papa, tu es si bon, tu es si merveilleux, Père. Tu nous aimes, ô Seigneur du Père Tout-Puissant, en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Roi. Tu as consenti de nous envoyer ton Esprit Saint, ô Dieu, celui qui fait toutes choses, Seigneur, te concernant, afin qu'il nous console, qu'il nous assiste, qu'il nous édifie, qu'il nous transforme. Ô Père éternel, nous te disons merci. Merci parce que ferons-nous sans lui? Que ferons-nous sans le Saint-Esprit? Notre Seigneur Jésus nous a dit, je ne vous laisse pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. Je prierai le Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Et que lui viendra vous parler de moi. Nous avons tellement besoin qu'on nous parle encore de notre Seigneur Jésus. Qu'on nous explique encore ce que notre Seigneur Jésus est venu faire, établir, ce qu'il essaie de nous enseigner, afin de pouvoir vraiment marcher dans ses pas et être en obéissance avec ce qu'il veut qu'on fasse pour pouvoir, Père, monter jusqu'à toi et nous réconcilier à toi. Alléluia. Et être utilisé par toi. Saint-Esprit de Dieu, ô le Paraclet. Toi qui es notre enseignant, notre consolateur, notre tout. Oh, nous t'invitons maintenant à prendre entièrement contrôle de ce temps, entièrement contrôle de ce moment de partage. Nous avons soif et faim de tes révélations. Nous avons soif et faim de connaître notre Seigneur, de connaître notre Dieu, de connaître les principes du royaume dans lequel il a eu l'amour de nous attirer. Viens, Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de nos cœurs, âme, esprit maintenant. Prends contrôle de tout et conduis ce moment. Enseigne-nous. Enseigne-nous au travers de ma bouche. Parle. Révèle-nous la parole de Dieu. Oui, dispose nos cœurs à l'entendement. Alléluia. Gloire te soit rendue, toi qui rends capable de toutes choses. Oh, augmente notre discernement, augmente notre sensibilité à toi, augmente notre sagesse, donne-nous de l'intelligence, alléluia, pour pouvoir comprendre, posséder la vie qu'il y a dans la nouvelle naissance. Oh, en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Je prends autorité maintenant au nom de Jésus. Et je chasse tout esprit de confusion, tout esprit d'erreur, tout esprit de fatigue, tout esprit de distraction. Je chasse vraiment tout esprit de lassitude, tout petit esprit d'endormissement. Je le chasse au nom puissant de Jésus. Et j'appelle un esprit de vivacité, un esprit de courage, un esprit d'éveil. J'appelle un esprit de justesse au nom puissant de Jésus. J'appelle un esprit d'intelligence, un esprit de vraiment de conseil, un esprit de science qui nous habite, un esprit de grâce au nom puissant de Jésus. Gloire te soit donnée au Père éternel. Oh, nous t'avons prié au nom de notre Seigneur Jésus et nous savons que toute chose est établie au nom puissant de Jésus. Amen.
Amen.
Voilà. Nous travaillons sur la notion de la nouvelle naissance. C'est une notion parce qu'elle est large, tout comme la notion de la repentance. C'est pas seulement un mot, c'est toute une notion. Et l'expression naître de nouveau, ça a été utilisé par Jésus-Christ lui-même. Ce qui est bien, c'est que la Bible, beaucoup de gens ont parlé dans la Bible. Et moi, j'ai l'habitude de dire, oh, vraiment, quand quelque chose a été dit par Jésus-Christ lui-même, pour moi, c'est en vérité, en vérité. Amen. Donc, cette notion, ce principe a été énoncé par Jésus-Christ lui-même pour la première fois. Et même presque les rares fois. Parce que cette expression naître de nouveau ou être né de nouveau, ça se dit, est écrit à peine 5 fois dans la Bible. Mais c'est une notion qui est tellement importante. C'est une notion qui est rattachée à ce que Christ est venu faire à la croix. Nous allons lire cela dans Jean, dans le livre de Jean, à son chapitre 3. Et nous avons Jean, qui était un apôtre de Jésus, dont 2 apôtres de Jésus direct et 2 fils de Paul. C'est important de noter ça. Et les deux fils de Paul ont écrit les évangiles, leur évangile, chacun selon son courant. Marc a écrit son évangile, je dirais en quelque sorte dicté par son maître, par son mentor, pas son maître, son maître était Jésus, par son mentor qui était Paul. Et Luc, lui, il avait une autre approche parce que Paul trouve Luc, Luc est déjà un scientifique, quelqu'un qui est qui a étudié, qui a de la connaissance et tout, parce que c'est un médecin. Luc, c'est un médecin. Et en plus, Luc a un esprit très critique. Luc, c'est un médecin, mais il a un esprit d'investigation, c'est-à-dire c'est presque un journaliste. Il dit, parce qu'il aime Dieu, il a dit, il faut que j'aille chercher moi-même. Donc, il a fait ses propres enquêtes sur le terrain. C'est pour ça que l'évangile de Luc est un évangile qui est très carré. Et donc, tout ce qu'il n'a pas pu lui-même trouver les gens pour confirmer ça, il n'a peut-être pas mis dedans. Mais ce qu'il a trouvé, il a décortiqué ça correctement. Et Jean, par contre, est un apôtre. Matthieu est un apôtre. Matthieu, parmi tous les apôtres, était le plus érudit. Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. Et les Romains ne venaient pas et prendre n'importe qui pour travailler avec eux. Il fallait que tu saches déjà, un, parler leur langue, que tu saches calculer, que tu aies de l'instruction, etc., pour qu'ils puissent te former à ce qu'ils voulaient faire. Donc Matthieu était un érudit, quelqu'un qui était, contrairement à Pierre, Jacques et autres, qui étaient des travailleurs de main. C'était des pêcheurs. Est-ce qu'on se comprend? Matthieu a écrit son évangile quand il est parti. Lui, quand on étudie leur vie, on voit que quand ils se sont séparés de Jérusalem après, Matthieu, lui, il est parti vers l'Éthiopie. C'est lui qui allait évangéliser toute l'Éthiopie. Et il a écrit son évangile en racontant clairement ce qu'il a vécu avec Jésus du premier jour jusqu'au dernier jour. Il a un évangile d'amour, il a un évangile vraiment de ce que lui l'a vu. Il voyait un homme qu'il admirait, il voyait tout ça comme ça. Jean, par contre, moi j'ai l'habitude de dire que Jean a écrit son évangile après avoir écrit le livre de Apocalypse. Parce que le livre de Apocalypse, il a écrit quand il était en exil à Patmos après une révélation qu'il a eue. Et c'est dans le courant du livre de l'Apocalypse et dans la clarté qu'il a reçue de tout ce qui devait arriver qu'il a maintenant écrit les évangiles, parce que ça lui a permis de comprendre ce que Jésus-Christ était venu faire. Quand vous lisez, quand vous aurez, parce que je ne peux pas dire quand, si vous avez lu, parce que c'est que vous n'avez pas encore lu toute la Bible, mais quand vous aurez lu tous les évangiles, vous vous rendrez compte que l'évangile de Jean est assez particulier. C'est un évangile prophétique. Il prend les choses que Jésus a dit et il explique beaucoup plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'il explique maintenant, parce qu'il a vraiment compris. Alors que les autres ne font que répéter ce qui s'est passé, parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas encore vraiment complètement compris. Donc nous sommes dans l'évangile de Jean, et quand nous lisons l'évangile de Jean, c'est bien parce que chaque fois qu'il raconte quelque chose, il nous en donne l'explication. L'explication spirituelle. Amen.
Amen.
Voilà. Donc nous sommes dans Jean 3. Ouvrez vos Bibles et préparez les intercalaires, parce que nous allons un peu partir d'une page à une autre sans fermer complètement la Bible. Ouvrez les intercalaires, ouvrez Jean 3 et nous allons lire un peu ce texte de Jean 3 à Jean jusqu'au verset 21. C'est important parce que tout le processus de la nouvelle naissance est expliqué là-bas. Qui veut nous lire ça? Oui, lis, pasteur.
Jean chapitre 3, à partir du premier verset, il est écrit : Il y avait un homme entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des juifs.
Amen.
Qui vint lui auprès de Jésus de nuit, et il lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec nous.
Amen. Arrêtons-la d'abord. Arrêtons-la d'abord, on va progresser. Lorsque vous lisez dans vos versions, moi aussi j'ai lu second. Verset 1, ça commence par « mais ». Moi, j'ai l'habitude de dire que quand on disait avec moi, rien ne, je ne laisse rien passer. Quand on commence un texte par « mais », ça veut dire qu'avant, il y a eu quelque chose. Donc, si avant, il y a eu quelque chose, il est important pour que nous comprenions en fait ce qui se passe ici. Pourquoi un pharisien, Nicodème, vient de nuit pour voir Jésus? Donc, nous allons aller à Jean 2. À la fin de Jean 2, nous allons lire. Pour comprendre le « mais » là. Amen.
Amen.
Dans Jean 2, verset 24.
Dans Jean 2, Amen.
Amen.
Donc, dans ce chapitre 2, Jésus est arrivé à Jérusalem et c'est le chapitre dans lequel il se fâche. Il s'est fâché contre les personnes qui, dans le temple, faisaient leur commerce. Et c'est dans ce chapitre 2 là qu'il leur dit qu'il a détruit, a cassé leur banc, leur table et tout ça. Et il leur a dit: détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Avant aussi, au début, on a vu que même avant d'arriver à Jérusalem, il avait fait beaucoup de miracles. Et les pharisiens étaient en train de s'étonner sur le fait que vraiment, comment se fait-il qu'il fasse ces miracles-là? Donc, Jésus dit ici au verset 23, beaucoup ont cru en lui, les hommes croyaient en Dieu. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Il ne se laissait pas tromper par leur attitude-là, parce qu'il les connaissait. Il n'avait pas besoin qu'on part de là et on arrive à « mais ». Ça veut dire que parmi tous ces gens-ci, il y a quelqu'un qui s'est détaché. Amen.
Amen.
Donc, revenons maintenant au chapitre Jean 3, là où Nicodème va voir de nuit Jésus. Lis encore même le 2 si tu veux avant d'attendre.
Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit, et il lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Amen.
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 Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit.
Amen.
Amen. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage? Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Amen.
Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Point.
Point.
D'accord. Arrêtons là-bas d'abord. Nicodème est donc venu de nuit voir Jésus et commence à lui poser des questions. Il se rend compte que Jésus, vraiment contrairement à ce que tous ses collègues la pensent, est quelqu'un de spécial. Il reconnaissait que vraiment ce qu'il était en train de faire, parce que parfois il dit en vérité, il dit quelque chose, et puis quand il dit en vérité, je me dis toujours que oh là c'est sérieux, ça si Jésus dit en vérité, ça veut dire que ce n'est pas seulement à mon niveau, c'est déjà au niveau du Père, hein, donc c'est très sérieux, normal. Donc nous-mêmes qui sommes en train d'étudier, oublions la femme qui accouche, oublions l'enfant qui naît, ce ne sont pas des choses terrestres, on ne parle pas de cet accouchement là Donc nous aussi qui sommes en train d'étudier la nouvelle naissance, préparons-nous déjà à ouvrir notre esprit à autre chose. D'accord? Parce que Nicodème l'a compris comme ça. Naître, il a dit, bon, est-ce qu'on va encore devenir petit, là, entrer dans le ventre de notre mère? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, il corse encore. C'était difficile là-bas, il ajoute encore. Naître d'eau et d'esprit là venant encore. Même Nicodème doit dire que c'est quoi encore? Et Jésus complète. Ce qui est né de chair est de chair. Les affaires de la chair là, tu dois mettre ça de côté. Tu dois mettre les affaires de la chair de côté. Et essayer de te dire, il faut que ce soit mon esprit qui soit connecté à Jésus-Christ pour pouvoir comprendre ces choses. Il reprécise à Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas. Parce que toi-même là, tu es venu parmi eux, tu es venu me voir, mais je te dis même à toi qui es venu me voir, il faut que vous naissiez de nouveau. Quand il dit, là il commence à parler en esprit, il dit, le vent souffle. Où il veut, tu l'entends, le vent souffle, tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas d'où il va. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Quelqu'un va me dire, est-ce qu'on a compris quelque chose là? Mais la seule chose que moi j'essaye de retenir, quand on me dit, tout homme qui est né de l'esprit est soumis au vent de l'esprit, c'est-à-dire à l'esprit de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui est né de l'esprit n'est plus soumis aux choses de la terre, aux choses terrestres. Il est soumis au vent de l'esprit. Mais notez que Jésus leur dit tout ça, Jésus n'est pas encore allé à la croix. Donc c'est assez compliqué pour eux de comprendre de quoi il s'agit. Mais toi et moi, nous savons que Jésus est déjà allé à la croix. Donc au jour d'aujourd'hui, ça ne devrait plus être difficile pour nous. Oui ou non? Parce que nous avons plus d'éléments et nous avons le Saint-Esprit pour comprendre ce que Jésus essayait de nous dire.
Parce que tout ce qu'il dit là, il est en train de d'augurer ce qu'il allait se passer à la croix. Mais Nicodème n'en sait rien. Mais nous, nous savons qu'il est allé à la croix, il est mort à la croix, il est ressuscité pour nous. On nous a déjà enseigné sur la repentance, n'est-ce pas? Donc quand nous disons, l'homme doit être, l'homme qui est né de l'esprit est soumis au vent de l'esprit, nous, nous devons comprendre parce que nous sommes nés de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, vraiment, tu es docteur, ça veut dire que voilà un peuple. Tu es parmi les gens les plus instruits de la chose de Dieu dans ce. Et les choses comme celles-là, tu ne connais pas. Ça veut dire que vraiment le peuple n'a même pas. Si toi, tu ne connais pas, personne, tu ne peux même pas enseigner. Vous êtes ignorant de ces choses, mais quand on vient vous dire, vous ne croyez pas. Vous voyez l'incrédulité? C'est Jésus qui leur dit. Si vous ne croyez pas quand je vous parle là, sur terre, moi-même, vous me voyez physiquement, comment allez-vous croire quand je vais vous parler des choses célestes? Si je commence là maintenant, autrement dit, si je commence maintenant à t'expliquer que je vais mourir, je vais ressusciter, je vais aller au ciel, tu vas seulement tomber. Ce sont les choses célestes. Et il continue à dire, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le fils de l'homme qui est monté au ciel. Il parle de lui, mais de lui plus tard. Parce que lui, il est venu du ciel. Il va mourir, mais il va repartir au ciel à sa place glorieuse. Continuons. Et il fait le nœud de la vie éternelle, le nœud de ce que Jésus est venu faire. Dieu a toujours fait ces choses. Dans l'Ancien Testament, il avait une façon de faire les choses, mais c'était toujours en prévision de ce que Jésus viendrait faire en faisant l'acte de sacrifice ultime. Nous n'allons pas entrer dans le détail de ça, mais c'est une histoire qui se raconte dans Nombre. Nombre à son chapitre 21, notez pour lire après. Nombre au chapitre 21, du verset 4 au verset 9. À Nombre, c'est une histoire dans Nombre. Voilà, 21, verset 4 à 9. Dieu est en train de faire sortir le peuple d'Égypte et comme il les trouve encore faibles, il leur fait prendre le détour du désert pour éviter de traverser les territoires occupés par des ennemis, par les peuples ennemis qui sont forts. Mais pendant qu'il les fait parler contre Dieu et contre Moïse, voilà ce qu'ils ont dit. Pourquoi vous nous avez fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert. Car il n'y a point de pain ici, il n'y a même pas d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ah, mon Dieu. Quand je pense que nous-mêmes, il y a des moments comme ça là, on a une attitude vraiment pareille comme ça dans le monde contre Dieu. C'est-à-dire Dieu venait de gagner une bataille pour leur libérer le chemin. Voilà ce qu'ils disent. La manne que Dieu, si eux-mêmes ils comprenaient c'était quoi la manne, ils ont appelé ça la misérable nourriture. Et ils ont contre Moïse, contre Dieu. Vous savez qu'à l'époque là, c'était du tic au tac. La loi était claire. Donc, tout ça, les impatiences, les murmures, les médisances, les plaintes, les dénigrements. Dieu, la punition est arrivée. Et ça, c'est ce que Jésus est en train de dire. Que ce qui est en l'homme est mauvais. Ce qui est en l'homme est mauvais. Il ne fait pas confiance en ce qui est en l'homme. Ce qui est de la chair, c'est mauvais. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer à Nicodème de l'autre côté. C'est pour ça qu'il fait allusion à ce passage. Que ce qui est arrivé à vos pères là avant, à cause de ce qui était mauvais en eux là, c'est ça qui va aussi vous arriver. Et la solution, la punition est arrivée. L'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Le serpent, c'est quelle image? C'est Satan, non?
Satan, évidemment.
Brûlant, c'est-à-dire bien, c'est-à-dire qu'ils ont eu des cas. Dans la Bible, ça peut être même debout ou bien dans leur agonie. Le peuple vient donc voir. C'est une attitude du peuple. Moi, je vois dans cette attitude, un, le repentir, pas la repentance, hein, mais le repentir. Ils ont eu des regrets, ils ont eu des remords. Ils sont venus avouer leur faute auprès de Moïse. Mais devant là, on va déjà oublier, on va encore recommencer. Et comme ils ont dit ça, ils disent donc à Moïse, pardon, c'est ça que Jésus est en train de rappeler à Nicodème. Il a dit à Moïse, voilà.
Jésus n'a pas voulu
sauver. Patience parle de l'idolâtrie. Attendez, patience parle de l'idolâtrie. Parce que Dieu dit, mais pour que celui qui regarde ait la vie sauve. Quand on, il a cloué, Dieu avait dit, il a envoyé Satan, c'est-à-dire de faire mourir l'œuvre de Satan là. Mais seulement pour que ça porte la vie, il faut que ce peuple qui soit en tort soulève les yeux et regarde à ça. Et soulever les yeux et regarder à quelque chose, c'est toute une notion spirituelle. C'est l'obéissance, c'est la foi, c'est la délivrance, c'est tout. Et le regard porté. Tout comme la Bible dit, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. C'est la crucifixion. Et quiconque avait été mordu par un serpent, première chose, et regardait le serpent d'airain, donc avait le courage d'affronter pour nous de comprendre ça. Si ça a été une référence pour Christ, ça doit être une référence pour nous. Amen.
Amen.
Évoluons dans la nouvelle naissance. Donc, on était à fils de l'homme soit élevé. Amen.
Amen.
Je vous ai expliqué que c'est Jean qui écrit, parce que Jean écrit les évangiles à ce moment-là, connaissant toute la suite. Il a déjà vu Christ mourir, il a déjà vu Christ ressusciter, il a vu Christ dans les cieux, etc., etc. Donc, il nous donne des explications, même des choses que Christ a dit et fait. Et ça, c'est une bonne chose pour l'évangile de Jean. Amen. Continuons, pasteur. Verset 17.
Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Amen.
Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mm-hmm. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise.
Mm-hmm.
Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu.
Alléluia.
Amen.
Nous rappelons que Jésus est toujours en train de parler à Nicodème. Il continue et il dit à Nicodème, vous savez, tu sais Nicodème mon ami, moi, je ne suis pas venu pour juger le monde. Parce que il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Moi, je suis venu pour sauver le monde. C'est-à-dire, il essayait de permettre à Nicodème de percevoir en fait à qui il avait affaire. Parce que Nicodème, au début, nous avons vu qu'il a dit que vraiment, pour faire ce que tu es en train de faire là, il faut seulement... quelqu'un ne peut pas faire ça s'il n'est pas avec Dieu. Mais il n'avait pas la dimension de... Il n'avait pas la révélation de qui était Jésus. Donc Jésus essaye par petites bribes comme ça de lui faire percevoir en fait qui il est. Il dit, moi je ne suis pas venu juger le monde. Moi je suis venu sauver le monde. Il y a une grande nuance. Pourquoi en fait? Parce que celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce que ce jugement-là est déjà effectif. Satan est déjà venu tout prendre. Aux yeux de Dieu, tout est jugé. Mais Christ est venu sauver pour que certains soient... Et c'est quoi le jugement? Le jugement, c'est simplement que Jésus est lumière. La lumière est venue, si vous lisez Jean 1, vous comprenez le processus de la parole puis de la lumière qui est venue au milieu des hommes. Et les hommes ne l'ont point reçu. Il dit le jugement. Il parle de tous ces gens-là. Il dit parmi eux, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de machin. Ce n'est pas oh, tel. Parce que quand on dit que Nicodème, quand on enseigne beaucoup dans les écrits, on dit que oh, Nicodème, un bon, il était avec les pharisiens, mais c'était un pharisien. Et il fonctionnait comme les pharisiens, il pensait comme les pharisiens. Ce n'est pas parce qu'il est venu. Jésus profite ici pour lui dire que toi, tu es venu nuitamment là. La Bible dit qu'il est venu de nuit. Tu es venu nuitamment pour me parler. Parce qu'en fait, tes œuvres sont mauvaises. Il faut lire. Lisons de 19. On dit, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal, en train de faire là, contrairement à quelque chose qui n'est pas machin, là, tu ne fais pas ça de nuit. Parce que ce qu'il reproche à Jésus, Jésus lui l'a fait ça le jour. Jésus a dit que lui fait ces choses le jour. Oh. Mais ceux dont les œufs sont mauvais, eux, ils font la nuit. Ils ne font pas dans la lumière. Et il dit, mais celui qui agit selon la vérité, vient à la lumière. Si toi-même, tu avais quelque chose de bon là, tu te serais levé au milieu des tiens et tu serais venu vers moi. Tu serais même venu même être mon disciple parce que si ces choses t'étaient apparues comme lumière, tu serais venu. Afin que les œuvres soient manifestées. Parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc il y a plein de gens comme ça qui sont entre guillemets des pharisiens ou des Nicodèmes. Le dimanche, ils sont bien à l'église là. Para. Ils donnent la dîme, les offrandes bien là. Dans la semaine, ils sont dans leur mapane là. Vraiment, tu les trouves, tu ne sais même pas qui connaît le chemin de l'église. Et la nuit là, ils sont dans les ténèbres, flop. Le dimanche, 8h tapant 00, ils ont déjà garé la voiture, ils sont là. Rien ne reste caché aux yeux de Dieu. Rien ne reste caché. Ça reste toujours révélé. Jésus dit, il sait ce qu'il y a en l'homme. Il n'y a rien de bon en l'homme. Donc tous sont appelés au salut. Et là nous entrons de penser la nécessité de changement de qui nous sommes. C'est ce que Jésus essaie d'expliquer dans ce texte à Nicodème. Il dit que ça ne t'étonne pas que je dise qu'il fasse que vous naissiez de nouveau. Maintenant, nous allons essayer de comprendre ce terme naître. Parce que de nouveau, c'est une nouvelle foi. C'est un renouvellement. Ce qui est important de comprendre, c'est naître. Ce qui est contenu dans ce terme naître. Puisqu'on a dit que ce n'est pas l'accouchement de la femme, n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc, dans le texte de Jésus, il dit naître de nouveau, naître d'eau et naître d'esprit. Qu'il faut absolument. Donc, ce verbe naître là, ça a une quintessence. Quand nous avons étudié la repentance, nous l'avons un peu déjà étudié en faisant allusion au fait qu'il faut un renouvellement, un changement de mentalité. Et nous avons dit que le terme repentance dans le changement de mentalité venait d'un mot source qui était Ginesco et qui avait trait à enfanter quelque chose. Aujourd'hui, même le mot naître là, c'est toujours un des mots qui a cette source. Parce que même Ginesco est encore plus profond dans une autre source. Le mot global qui entoure ça, c'est Ginomai. Le Ginomai, c'est l'origine de Dieu. C'est ce qui était à l'origine, ce qui est ancré en Dieu et qui était à l'origine et qui a fait tout le reste. C'est devenir, c'est l'existant. Vous savez que Dieu est appelé l'existant. Il a dit « Je suis ». C'est ce qui existe. C'est le point de départ de toute chose. Le commencement. Commencer à être quelque chose. C'est-à-dire venir même de la source. Provenir de la source. Donc, ce mot-là, le Ginomai, est tellement profond qu'à lui seul, il a accouché tellement de mots, mais tous ces mots-là se rattachent. Au Ginomai, on rappelle la descendance de Dieu, ce qui descend de Dieu, ce qui est de la même race que Dieu, ce qui puise son essence en Dieu lui-même, dans notre nature, dans notre être. C'est ça qui doit naître. C'est ça qui doit prendre la place. Il faut naître de nouveau. Ça veut dire qu'il y a une nécessité que dans notre être, dans tu es venu pour vous réconcilier à Père. Ça aussi, c'est un terme qui a sa source dans le génos. Je vous réconcilie à Père, c'est-à-dire que dans cette nouvelle naissance-là, nous redevenons des êtres entiers. C'est vraiment une... C'est un engendrement, parce que le terme naître, c'est le verbe généo qui veut dire engendrer. Être engendré de nouveau. Être enfanté de Dieu, c'est-à-dire provenir de Dieu. C'est pour ça que quand on dit que Jésus est venu mourir à la croix, il a donné sa vie. Il y a un échange de vie entre sa vie, qui est la vie que lui, il n'avait pas besoin de naître de nouveau parce qu'il était déjà Dieu. Il a changé cette vie avec notre vie, là qui était corrompue, afin que nous naissions de nouveau, que nous soyons engendrés de nouveau dans cette nouvelle vie-là. Il faut vraiment comprendre la nouvelle naissance dans ce sens. Et ça a à voir, pas avec la chair, parce que Jésus dit que ce qui est chair, mais il s'agit là d'un engendrement par l'esprit. Par l'esprit. Et c'est une notion, quand nous avons déjà compris une vraie notion d'engendrer quelque chose, de faire exister quelque chose, de renaître à la vie et une vie d'abondance avec Christ. C'est Paul qui nous explique le processus de l'engendrement, que nous avons été engendrés pour être fils, parce que le tout dit Dieu nous a adoptés pour être ses enfants. Il fallait qu'on soit engendré, parce que tu ne peux pas être l'enfant. C'est pour ça que par Jésus-Christ à la croix, il a procédé à cette nouvelle naissance afin que nous puissions devenir enfants de Dieu, engendrés de lui. Amen.
Amen.
Et la notion de cet engendrement-là, de cette nouvelle naître de nouveau là nous rapproche pour arriver à la nouvelle naissance. On est d'accord?
Oui.
Convertir, se repentir vraiment, en fait, on ne peut pas être converti sans une réelle repentance, sans un changement de mentalité, sans abandonner quelque chose, sans se tourner, sans être restauré. Et la conversion aussi, c'est un processus qui te rattache au point d'origine. Tout ça, c'est dans le souci de nous rattacher à Père, de nous réconcilier à Père. Et c'est le travail que Jésus-Christ est venu faire. Et ce terme convertir-là, ça a le même sens, que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit dans l'Ancien Testament. C'est se tourner, c'est retourner dans la vraie adoration de Dieu. C'est changer son état d'esprit. C'est te détourner du péché, c'est voilà. Naître d'eau, le serpent des reins, et a été délivré. De même, nous devons regarder à la croix, juste de renouvellement de la façon de penser, de son processus de ressenti, des décisions que l'on prend, et surtout de la nécessité de se laisser conduire par le vent de l'esprit. Parce que dans notre processus, ce qui n'est pas le plus aisé, c'est se soumettre à l'esprit de Dieu, hein. C'est s'abandonner à l'esprit de Dieu. Oh, c'est ce que Jésus explique à nous, Nicodème. Il faut s'abandonner au vent de l'esprit. Lui sait ce que Père veut, il sait où nous conduire, il sait où nous allons, il sait toutes choses. Donc c'est vraiment la première étape par rapport aux chrétiens. La version Semeur dit de ce verset, Jésus lui répondit: vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. À moins de renaître d'en haut. C'est une façon de s'exprimer. Mais quand on renaît d'en haut, qui est en haut?
C'est Dieu.
Dieu. Et c'est Paul aussi qui rentre maintenant dans son processus pour expliquer les mystères de l'évangile. Il dit dans 2 Corinthiens 5, 17, notez le verset, vous méditerez avec ça. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelle. Darby dit: en sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Nouvelle créature, nouvelle création. C'est pour dire on est quelque chose de nouveau. On n'est pas seulement une transformation un peu ici, un peu là-bas. Il faut un total changement. C'est le sens du repentance. C'est-à-dire c'est vraiment un changement. Tu tournes le dos à l'ancienne façon de faire les choses. Les choses anciennes, quand on dit qu'elles sont passées, ça veut dire que quand tu passes quelque chose, ça devient derrière toi, non? Et les choses nouvelles arrivent qui sont différentes. La nouvelle créature de Dieu fonctionne dans cet état d'esprit, en renouvellement de l'intelligence. Et dans Galates 6, 15, Paul expliquait un peu aux Juifs et tout ça qui essayaient de débattre entre la circoncision et tout. Il faut savoir que Dieu avait donné un précepte. Pour faire partie du peuple de Dieu, il fallait être circoncis. La circoncision était l'acte avec la mort de Jésus-Christ et la nouvelle créature que nous sommes. Ce n'est plus rien d'être circoncis ou incirconcis, c'est petit. Ce qui est quelque chose, ce qui a de l'importance, c'est d'être une nouvelle. Dans Tite 3, 5, on parle de renouvellement du Saint-Esprit. Il explique une chose et il dit, il nous a sauvés en parlant de Jésus, non à cause des œuvres de justice que nous avons faites. C'est-à-dire, il est venu mourir à la croix sans qu'on ait fait quelque chose, on était pécheurs et tout. Ce n'est pas parce qu'on était bon, on était très fort ou quoi que ce soit. Mais, selon sa miséricorde, et il nous a sauvés par le baptême, dont le baptême d'eau nous régénère, nous font quitter les choses anciennes, nous font évoluer dans notre repentance, nous détache de notre ancien et le renouveau. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Oh! Tite dit, par le baptême de la régénération, alléluia, naître d'eau et le renouvellement de notre. La version Semeur, toujours de ce verset Tite 3, 5, la version Semeur dit ceci. Il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous en nous faisant passer par le bain purifié. Merci de conduire toi-même ce programme. Merci, merci, merci. Je te prie en tout temps. Je te soumets ma volonté afin qu'en tout temps, je sois obéissante à ce que tu donnes comme instruction. Rends-moi sensible à toi, ô Esprit de Dieu. Merci. Merci parce que ça, j'ai vraiment la certitude que ce programme est de toi et de Dieu lui-même. Et vraiment est sous ton contrôle. Et glorifie notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci. Parce que vraiment, je ne sais pas comment on aurait commencé la nouvelle naissance sans avoir étudié la repentance. Vraiment, moi, je ne sais pas. Et quand je vois qu'il a... Oh, Seigneur. Vraiment, chérissez le Saint-Esprit dans vos vies. Aimez l'Éternel. Adorez Dieu. Vraiment. Aimez Jésus-Christ de tout votre cœur. Adorez votre Père. Mais chérissez le Saint-Esprit. Flattez-le. Cajolez-le, mon ami, tous les jours. Marchez même en roue comme ça en disant, prends sa main. Imagine-toi. Moi, je dis toujours, je m'imagine, moi, le Saint-Esprit. Quand je lui dis, prends contrôle, pilote, moi, je m'imagine, on prend notre moto, pas la voiture. J'ai expliqué que quand tu es assis dans la voiture de quelqu'un, tu n'es pas impliqué dans sa cœur. Dans la moto, là, c'est une question de vie ou de mort, vous deux. Moi, j'imagine. Parce qu'il savait qu'en partant, orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu le père, non? Jésus-Christ ne s'est jamais présenté comme notre père. Non, je veux attirer votre attention là-dessus. Jésus-Christ, dans tout son processus, ne s'est jamais présenté comme notre père. Il s'est présenté comme notre époux, il s'est présenté comme notre maître, comme notre seigneur, comme notre sauveur. Tout ça. Comme même des amis, comme notre ami avec les disciples, il a dit, vous êtes mes amis. Il n'a pas dit. Mais il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Ça veut dire que lui partant, il nous déconnectait du Père. Qu'est le Père? Notre Père qui est dans les cieux. On devenait orphelin de notre Père. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais prier le Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Afin qu'il vienne pour que vous continuiez d'être connecté au Père. Donc de recevoir la source qui vient du Père. Alléluia. Donc si quelqu'un n'évolue pas avec le Saint-Esprit, il n'a pas la source qui vient du Père. Il y a un fleuve là qui coule du trône du Père. Vous chantez seulement, il est un fleuve qui coule du trône de Dieu. C'est véritablement de nouvelles créatures. Même dans l'Ancien Testament, Dieu promettait déjà ces choses aux gens. Il dit à Ézéchiel, dans Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre cœur, de votre être, votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est-à-dire le processus de transformation depuis le début est au cœur de Dieu. Parce que sans être transformé, sans être renouvelé, nous ne pouvons pas être réconciliés à lui. Donc si tu avances et que les gens te disent, tu as changé, hein? Oh, dis, c'est bien ça. Il dit, mais je ne te reconnais même plus. Ouais, c'est bien ça. Ça veut dire que le Saint-Esprit fait l'œuvre en moi. Alléluia.
Amen.
Soyez régénérés, soyons régénérés. Amen. Soyons des êtres nés de nouveau. Alléluia.
Amen.
Et que la puissance de la nouvelle naissance parle dans nos vies au nom puissant de Jésus.
Amen.
Merci Seigneur, moi j'ai fini avec le message.
Merci au Dieu. Béni sois-tu, éternel Dieu des armées. Béni sois-tu, El Shaddai, béni sois-tu, au Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.
Amen. Amen. Alléluia.
Amen. Ok.
Ok. À la prochaine.
Je
demeurerai béni en Jésus-Christ.
Amen. Amen.
Amen. Shalom.
Shalom, shalom.